Chapitre 24. Ratten mourait de chaud, en plein soleil dans sa carapace rouge sang. Il se consolait en se disant qu'il devait avoir l'air imposant, campé sur le rempart dans son armure étincelante. Mais, bien sûr, nul ne lui accordait la moindre attention. Tous regardaient la princesse Théwayenne distribuer sa nourriture. Que la jeune femme ait décidé de venir ici et que le roi lui en ait donné la permission avait choqué Kaé. Le mur s'était garni en un rien de temps. Nobles et marchands rassemblés sur le chemin de ronde tel le public d'un combat de requins vordois et penchés sur le parapet pour goûter un spectacle qu'ils prévoyaient désastreux. On estimait en règle générale que les sauvages d'Elantris démembreraient sa reine dès son entrée, avant de la dévorer. Le Gjörn observait, résigné, les monstres qui s'avançaient d'un air placide et refusaient d'ingérer le moindre garde sans parler de la princesse. Ces démons refusaient de jouer leur rôle et le désappointement gagnait les visages de l'assistance. Sa reine avait magistralement castré les diables de Ratten d'un seul coup d'une lame tranchante, celle de la vérité. Et puisque les aristocrates qui la soutenaient avaient montré leur courage en la suivant dans la cité maudite, la fierté forcerait le reste de la noblesse à les imiter. Ainsi, la haine d'Elantris s'évaporerait. On n'a pas peur de ce qui fait pitié. Comme de toute évidence aucune princesse n'allait être ingurgitée, les spectateurs repartirent en petits groupes déçus par l'escalier interminable. Ratten se joignit à eux. Une fois au pied des marches, il se dirigea vers le centre de Kaé et la chapelle d'Ereti. Bientôt, un carrosse se portait à sa hauteur. Le Gjörn reconnut Laon qu'il arborait. Laon rit. La voiture s'arrêta et la portière s'ouvrit. Ratten hésita un instant, avant de monter et de s'asseoir face au duc Tel Rii. Celui-ci ne dissimula rien de son déplaisir. « Je vous avais prévenu à propos de cette femme. Inutile d'escompter que le peuple déteste Elantris, désormais, ou le Chukorath. » Ratten balaya l'argument d'un geste. « Peu importe les efforts de cette jeune fille. J'ai du mal à vous suivre. Combien de temps pourra-t-elle continuer son œuvre de charité? 2 semaines? 1 mois au plus? Ces excursions offrent l'attrait de la nouveauté. Cela ne durera guère. De moins en moins de nobles voudront l'accompagner, même si elle tente de poursuivre ses distributions de nourriture. « Les dégâts sont bien réels, » insista Tel Rii. « Pas du tout. Mais sire, voilà quelques semaines à peine que je suis en Arelon. Si cette femme nous apportait un coup, il n'a rien de fatal. Vous savez aussi bien que moi l'inconstance des aristocrates. Selon vous, dans quel délai auront-ils oublié leur visite à Elantris ?» Le duc paraissait peu convaincu. Ratten décida d'essayer une autre tactique. « En outre, cette cité ne jouait qu'un rôle secondaire dans mon plan. La fragilité du trône, la gêne diadone dès le prochain exercice fiscal, voilà ce qui devrait mobiliser nos efforts. Le roi vient d'obtenir de nouveaux contrats en Théode. Allons, ils ne lui permettront jamais de compenser ses pertes. Ses coffres sont presque vides. Les nobles ne sauront tolérer qu'un souverain qui les oblige à maintenir leur fortune refuse de s'appliquer les mêmes critères. Bientôt, nous allons pouvoir lancer des rumeurs sur ses soucis d'argent. La plupart des aristocrates de haut rang sont eux-mêmes des marchands. Ils ont tous les moyens de savoir comment se porte leur concurrent. Une fois au courant de sa mauvaise santé financière, ils commenceront à se plaindre. Leurs plaintes ne suffiront pas à m'installer sur le trône. Vous pourriez être surpris. Dans le même temps, nous laisserons entendre qu'une fois sur le trône, vous apporterez à l'Arelon un traité lucratif avec l'Est. Je peux vous fournir les documents idoines. Il y aura de l'argent pour tous, ce que Yadon n'a jamais pu offrir. Votre peuple sait bien que ce pays est au bord de la ruine. Le Fjorden peut vous en préserver. L'homme hocha lentement la tête. « Oui, Tel Rii, » songea le Gjörn avec un soupir intérieur. « Voilà quelque chose que vous pouvez comprendre, n'est-ce pas? Faute de pouvoir convertir la noblesse, on pourra toujours l'acheter. » La tactique laissait à désirer, mais elle suffirait à calmer le duc le temps de prévoir d'autres plans. Une fois le souverain en faillite et Tel Rii l'individu le plus riche du pays, d'autres pressions sur le gouvernement garantiraient le transfert subi du pouvoir. La princesse contrecarrait le mauvais projet. Elle se croyait futée de nourrir les Elantriens, ce qui ne sauverait pas Yadon. « Prenez garde, Ratten, » dit soudain le duc. Je n'ai rien d'un pantin d'Hérétie. Vous m'avez promis une fortune et vous avez tenu parole. Voilà pourquoi je soutiens votre plan. Mais n'escomptez pas me manœuvrer à votre guise. Je ne me le permettrai pas, votre seigneurie, répondit le Giorn d'un ton doucereux. Tellery hocha la tête et ordonna au cocher de s'arrêter. Il n'avait pas couvert la moitié du trajet jusqu'à la chapelle. « Mon manoir se situe dans cette direction, » déclara le duc d'un ton hautain en indiquant une rue latérale. « Vous pouvez terminer votre chemin à pied. » Un jour, cet homme apprendrait le respect à témoigner aux officiels d'Hérétie. Pour l'heure, Ratten se contenta de serrer les dents et descendit du carrosse. Vu la compagnie, il préférait marcher, de toute façon.
« Je n'ai jamais vu une telle réaction en Arelon, » déclara un des prêtres.
« Non, en effet, » dit son compagnon. « Je sers l'Empire Achaïe depuis une bonne décennie, et nous n'avons jamais eu plus de quelques conversions par an. » Le Giorn, passant près d'eux pour entrer dans la chapelle, n'aurait accordé aucune attention à des religieux situés si bas dans la hiérarchie s'il n'avait discuté avec Dilaf.
« Depuis bien longtemps, oui, » convint ce dernier. « Mais je me rappelle une véritable vague de conversions dans ce pays, juste après l'attaque de Dreog Brisegorge sur le Théode. »
Ratten, troublé par cette remarque, fronça les sourcils. Il se força à poursuivre sa route, non sans jeter un bref regard derrière lui. L'événement que l'Artet évoquait remontait à une quinzaine d'années. Dilaf pouvait s'en souvenir, même s'il était alors enfant, mais comment aurait-il eu connaissance du nombre de conversions à la foi d'Hérétie ? Il devait être, et de beaucoup, plus mûr que le Giorn l'avait cru. Ratten écarquilla les yeux en évoquant l'Artet. Il lui donnait dans les 25 ans, mais le visage qui revenait à sa mémoire pouvait trahir un âge plus avancé. Dilaf devait être de ces rares individus qui paraissent plus verts qu'ils ne le sont. Le jeune prêtre arélois feignait l'inexpérience, mais sa capacité d'échafauder des plans révélait une maturité cachée. L'Artet était plus aguerri qu'il ne le donnait à croire. Pourquoi ce subterfuge ? Secouant la tête, il entra dans son bureau. L'autre renforçait son emprise sur la chapelle tandis que le Giorn tâchait de trouver un Artet en chef compétent et désireux d'accepter le poste. Trois hommes l'avaient encore refusé. Plus qu'un soupçon, Ratten avait à présent l'absolue certitude que Dilaf jouait un rôle dans ses refus. « Il est plus âgé que tu ne le croyais, et il a de l'influence sur les prêtres d'ici depuis longtemps. » Selon Dilaf, bien des fidèles originels de la foi d'Hérétie à Caé étaient venus avec lui de sa chapelle du sud de la Rélone. À quand cela remontait-il ? Fionn était déjà Artet en chef lors de son arrivée, mais il avait longtemps occupé le poste. Dilaf devait vivre ici depuis des années, pendant lesquelles il avait appris à influencer les autres prêtres et à leur imposer ses vues. Étant donné son zèle pour le Chudéret, il avait sans doute choisi comme associés les plus conservateurs, les plus efficaces d'entre eux. C'était cela que Ratten, à peine débarqué, avait laissé en fonction. Il avait renvoyé les moins dévoués, ceux que l'ardeur d'un fanatique aurait pu déranger. Sans le vouloir, il avait renforcé l'assise de Dilaf au sein de la chapelle. Chagriné, il s'assit à sa table de travail. Il ne pouvait que peiner à trouver un nouvel Artet en chef. Les prêtres restants connaissaient bien Dilaf. Ils redoutaient d'occuper un poste de rang supérieur où ils le refusaient sur son ordre. « Il ne peut pas avoir la même influence sur tous », essaya-t-il de se persuader. « Je dois continuer à chercher. Un des prêtres finira bien par accepter le poste. » Toutefois, l'efficacité surprenante de l'Artet l'inquiétait. Dilaf avait pris sur lui de deux façons. Il avait fait ses odives des convertis les plus puissants de Ratten et il renforçait de jour en jour son pouvoir officieux sur la chapelle. Faute d'un Artet en chef et en l'absence d'un Giorn qui passait le plus clair de son temps à prononcer des sermons et à rencontrer les nobles, il prenait toujours plus d'importance dans la gestion au quotidien de l'église d'Hérétie en Arelon. Mais un problème encore plus troublant assaillait Ratten qu'il n'avait aucune envie d'affronter. L'épreuve de sa reine, les manœuvres de Dilaf, tout cela était externe. Il pouvait se mesurer à de tels obstacles et en sortir vainqueur. Ses propres émois, cependant, c'était une autre affaire. Il ouvrit le tiroir de sa table de travail où il savait avoir rangé un petit livre qui l'accompagnait toujours. Il ne l'avait pas consulté depuis des années, mais comme il possédait fort peu de biens matériels, il ne s'était jamais retrouvé encombré au point de devoir s'en séparer. Il finit par le dénicher et feuilleta les pages jaunies jusqu'à localiser le passage qu'il cherchait.
« J'ai trouvé un but », disait le texte. «
Jusqu'à présent, je vivais sans savoir pourquoi. Mon existence a un sens, désormais, et mes actes sont glorieux. Je sers dans l'empire du Seigneur Jadet, sous ses ordres. Je suis important. Bien qu'on apprenne aux prêtres d'Hereti à consigner leurs expériences spirituelles, Raten n'avait jamais fait preuve de diligence dans ce domaine. Son journal ne contenait que quelques entrées à ce sujet, dont celle-ci, rédigée des années auparavant, quelques semaines après sa décision de rejoindre la prêtrise, juste avant son entrée au monastère de Dakor. Qu'est devenue votre foi ? La question d'Omune le hantait. Dans son esprit, il entendait le prêtre Korati qui voulait savoir ce qu'il était advenu de ses croyances et quels propos servaient son enseignement. Raten était-il devenu cynique au point d'accomplir son devoir pour le seul motif qui lui était familier ? De quête spirituelle, son œuvre de prédicateur se muait-elle en problème de logique ? Il devait reconnaître que c'était plus ou moins le cas. Les projets, les confrontations, les planifications nécessaires à la conversion d'une nation entière d'hérétiques, tout cela lui plaisait. Même avec Dilaf pour détourner son attention du but premier, il appréciait le défi que représentait la Raylon. Mais qu'était-il advenu du jeune Raten ? De sa foi ? De la passion instinctive qu'il éprouvait ? À peine s'il se souvenait de tels sentiments. Cette partie de sa vie avait passé trop vite, comme un rêve. Le feu brûlant d'autrefois n'était plus guère que chaleur réconfortante. Pourquoi voulait-il réussir sa mission en Arelon ? Pour la notoriété qu'elle lui apporterait ? On se souviendrait de celui qui aurait converti ce pays dans les annales de l'Église. Par désir d'obéissance ? Il détenait après tout un ordre de la main même de Virne. Parce qu'il croyait sincèrement que se convertir aiderait ce peuple ? Il était déterminé à éviter de reproduire le massacre qu'il avait causé en Duladel. Mais là encore, était-ce parce qu'il voulait sauver des vies ou parce qu'il savait qu'une conquête sans effusion de sang était une gageure, et donc plus stimulante ? Il avait beau s'examiner, ses motivations lui semblaient aussi floues qu'une pièce remplie de fumée. Que Dilaf prenne le pouvoir n'avait rien d'aussi effrayant que l'appréhension qu'éprouvait Raten. Et si l'Artet avait raison de vouloir l'évincer ? Si la Raylon s'en portait mieux ? L'autre ferait peu de cas d'une révolution sanglante. Il saurait avec certitude que le peuple bénéficierait du Chuderet en fin de compte, même si sa conversion exigeait un massacre. Dilaf avait la foi. Dilaf croyait en son œuvre. Et Raten, il n'en était plus très sûr.